Je ne sais pas si dans notre monde, tout le monde chante. Il y a des gens qui chantent, mais ils chantent pour s'étourdir, tandis que nous chantons parce que nous sommes heureux. C'est un sujet qui revient très souvent dans la Bible, le fait d'être heureux. Et j'ai regardé dans l'Apocalypse le nombre de fois où il était écrit « heureux ». C'est drôle parce que le livre de l'Apocalypse nous parle de tout ce qui va arriver, de tout ce qui va se passer après que l'Église sera enlevée. Et quand les gens vont lire le livre de l'Apocalypse après l'enlèvement de l'Église, je peux vous dire qu'ils vont certainement regretter de ne pas avoir fait attention à tous les textes où il était dit qu'il y a des gens qui sont heureux. Le bonheur, c'est un sujet qui a toujours préoccupé les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout le temps. D'ailleurs, c'est David, on peut le lire, il y a une question qu'il pose dans le psaume 4. Il pose une question, il se fait le porte-parole de plusieurs frères sûrement. Il devait discuter. Ça nous arrive de discuter avec les frères. On parle d'un sujet, on parle d'une autre. Et certainement, il devait en discuter. C'est sûr, vu la tournure de la question, psaume 4, verset 7, il pose une question. Il y en a plein de questions dans la Bible. Je suis en train de les compter. Il y en a des centaines et des centaines. Psaume 4, verset 7, plusieurs disent... Oui, donc, ils en parlaient. Qui nous fera voir le bonheur? Donc, c'est un sujet qui préoccupe les gens. Alors, on va voir les sept textes où il est parlé d'être heureux dans l'Apocalypse. Mais juste d'abord, une petite introduction pour que nous nous souvenions bien qu'est-ce que c'est le bonheur et comment il est le bonheur. Pour beaucoup de gens, le bonheur, qu'est-ce que c'est pour les gens? Si on devait leur dire, c'est quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce qu'ils répondraient? Avoir un bon meneur de chant, bon, on a pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que répondrait? Avoir une famille? La paix, l'argent, oui, l'argent. Travail, une famille. Oui, et tout ça, c'est vrai que ça contribue au bonheur. Mais on va voir juste quatre éléments qui sont là dans la Bible, qui nous montrent ce que c'est le bonheur. Le bonheur, regardez, on voit souvent, juste avant, on peut le lire avant, parce que, mais ça revient constamment dans la Bible. Psaume 2, verset 12, la fin du verset 12. C'est une expression qui relate, qui revient, mais souvent. Heureux, la fin du verset 12, tous ceux qui se confient en lui. Le bonheur qui est lié à la confiance. Parce qu'il n'est jamais dit heureux ceux qui prient. Pourtant, la Bible nous encourage à prier, oui ou non? Toute la Bible nous rappelle l'importance de prier, de supplier, de faire des requêtes, etc. Mais jamais il est dit « heureux l'homme qui prie ». Par contre, il est dit « heureux tous ceux qui se confient en lui ». Et j'écoutais bien la prière de Laure tout à l'heure, qui exprimait son immense reconnaissance d'avoir la grâce de pouvoir se confier en Dieu. C'était bien ça? Ouais. Quel bonheur de se confier en Dieu. Il y a plein de gens qui vont à l'église, il y a plein de gens qui prient, il y a plein de gens qui servent Dieu, il y a plein de gens même qui prêchent. Ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le vrai bonheur, il est lié à la confiance, à la foi. Alors on pourrait passer toute la soirée, une heure facile, à prendre 10, rien que dans les psaumes. Toutes les fois, il a dit « heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur ». La foi, c'est extraordinaire, mais la foi, ça ne suffit pas. Regardez dans le psaume 23, le psaume le plus connu d'ailleurs, on le lit, mais vous n'auriez pas besoin de le lire. Psaume 23, à quoi est raccroché le bonheur? Psaume 23, verset 5. Verset 6, pardon. Le bonheur est lié à quoi? À la grâce. Oui, en plus c'est de l'assurance. Quand il y a le mot « oui », ça ne veut pas dire « oui », ce n'est pas poétique. C'est-à-dire que la personne, elle exprime une conviction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David connaissait la vie. Il a souffert, il a pleuré, mais il a pu dire oui, le bonheur et la grâce. Parce que le bonheur et la foi, ça va, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la grâce, même la foi, ça ne servirait à rien. À quoi servirait franchement, la foi, si la grâce de Dieu n'existait pas. Donc le bonheur, il est lié à la grâce. La grâce de pouvoir dire, oui, si ce soir j'ai pu venir dans la maison du Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Tout est grâce. Vous le croyez que tout est grâce? Tout absolument est grâce. Et si un homme veut connaître le bonheur, il faut absolument qu'il soit continuellement relié à cette foi et à cette grâce. Mes frères et sœurs, dépendons toujours du Seigneur jusqu'à la fin. Que nous soyons toujours attachés à la grâce de Dieu. Le troisième pilier du bonheur est dans le psaume 25. Dans le psaume 25, au verset 12, le bonheur est lié à quoi? Alors, quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est encore une question, oui. Parce que je ne sais pas si dans toutes les églises, les gens craignent Dieu. Enfin, ont le respect profond de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et son âme, elle reposera où? Dans le bonheur. Donc, le bonheur, dans ce texte, est lié au fait d'avoir la crainte de Dieu. C'est important, la crainte de Dieu. Le respect de sa parole. Dieu dit, mais malheur à l'homme qui contexte avec son créateur. Il y a des chrétiens, je ne sais pas s'il faut attention, mais en tous les cas, ça va mal. Ils sont tous, oui, je ne comprends pas, pourquoi Dieu a permis ceci, et pourquoi Dieu fait cela, et pourquoi c'est arrivé ci, et pour... mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que je crois que même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a une façon de parler à Dieu. Et ces gens-là ne peuvent pas être heureux. C'est clair, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a laissé dans sa parole. Le bonheur, il est lié à la crainte de l'Éternel. C'est une immense bénédiction pour un homme d'avoir le respect de Dieu. Et le quatrième pilier du tabouret, c'est dans le psaume 64, où l'on voit cette grâce de plus, ce pilier du bonheur, voyez, dans le psaume 65, pardon, verset 5. C'est un verset qui indique, ça complète ce que l'on vient de voir, mais je vous dis, c'est vraiment la base du bonheur. La foi, la grâce, la crainte de l'Éternel, et quatrièmement, regardez à quoi il est lié. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Le bonheur de servir dans la maison de Dieu. Oui ou non? Est-ce que vraiment, quand je vois la quantité de chrétiens qui rétrogradent, c'est un mot qui n'est peut-être pas idéal, mais c'est quand même la vérité. Ils ont été esclaves, piégés par les ruses du diable, parce que moi je suis sûr que c'est vrai, parce que je le vis, il y a un bonheur qui est lié à venir servir Dieu dans la maison du Seigneur. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Quelle grâce d'avoir une église. Moi, je pense tous les jours des gens qui n'ont pas d'église ou des églises qui n'ont pas de pasteur, etc., etc. Avoir une assemblée, pouvoir venir prier avec les frères, les sœurs, chanter ou essayer, etc. C'est pas merveilleux? Hein, le bonheur. Alors, dans l'Apocalypse, donc, voilà, c'était ma petite introduction, pour que nous comprenions bien que le bonheur, c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, l'argent, tiens l'argent. Est-ce que l'argent, allez, soyons honnêtes, parce qu'après tout, quelqu'un pourrait dire oui, mais quand même, est-ce que l'argent contribue au bonheur? Mais c'est pas parce que les gens en ont qu'ils sont heureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il empêche que ça fait partie des grâces de Dieu. L'argent, c'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent, vous voyez? L'argent, c'est une bénédiction. Si Dieu nous accorde un salaire, etc., c'est une grande grâce. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus être déséquilibré. Et il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et ne jouons pas les hypocrites. Donc, dans l'Apocalypse, alors on va le faire vite parce qu'il y en a 7 textes. 7 textes qui nous parlent du bonheur et 13 textes où il est parlé du malheur. Alors, on va commencer par le premier. C'est bizarre parce que dans la Bible, il y a 66 livres. C'est le seul livre qui commence avec cette parole. Apocalypse 1, verset 3. Le premier pilier de ce bonheur qui rejoint, je rappelle, la grâce, la foi, la crainte de l'Éternel et le bonheur de servir Dieu dans sa maison. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce contexte-là, sur cette base-là, regardez ce que dit le verset 3 du chapitre 1er. Heureux celui qui lit, mais ça ne s'arrête pas là, ça ne suffit pas, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, mais ça ne suffit pas non plus, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche, et vous pouvez dire Amen. Dieu dit, vous voyez, pourtant c'est des prophéties, l'Apocalypse c'est quelque chose de d'important, c'est quelque chose quand même qui fait réfléchir, ça vous montre tout ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église, aux chrétiens ? Heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. C'est une chose de lire et de dire c'est la parole. Vous voyez tout ce que j'ai dit. Si vous êtes converti, il n'y en a pas un qui va dire ce que M. Go a dit, c'est de travers. C'est la vérité. Mais ça ne suffit pas. Lire, c'est bien. Le peu qu'on vient de lire, c'est une bénédiction. Mais il faut l'entendre. Il faut que ça descende du cerveau dans le cœur. Je veux l'entendre. Je veux que ça produise une conviction. Quand David disait oui, il aurait pu dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non, il dit oui. Oui, ça veut dire à cause de la grâce, le bonheur est possible. C'est ça que ça veut dire. À cause de la foi qu'il avait, le bonheur est possible. À cause, c'est David qui a écrit ces quatre textes. À cause de la crainte. Il y a un vrai bonheur. Mais là, c'est pareil. Ce livre sévère, c'est grave l'Apocalypse. Parce que je peux vous dire que là, on en parle comme ça. Mais croyez-moi que ceux qui vont la lire, ou le lire, parce que là, dans le sens, c'est une prophétie, ceux qui vont lire cette prophétie après l'enlèvement, croyez-moi qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont passés à côté de la beauté de ce verset qu'on vient de lire. Oui, il y a un bonheur pour celui qui lit les prophéties. C'est une grâce de lire les prophéties. Parce que on lit, moi j'aime lire, c'est vrai. Et je lis et je relis. Cette semaine, je suis en train de lire Jérémie. C'est un livre d'une grande souffrance, mais il y a des textes extraordinaires. Heureux celui qui lit, qui entend avec son cœur. Un chrétien, il doit entendre dans son cœur. Mais vous ne trouvez pas que Dieu aurait pu ne pas le inspirer Jean pour qu'on ait l'Apocalypse? Après tout, est-ce que Dieu était obligé de nous donner ce livre? Soyons honnêtes. Est-ce qu'il pourrait y avoir 67 livres dans la Bible, point barre, et hop, l'Apocalypse, ils ne l'auront pas? Ben oui. Quelle grâce! Le Seigneur, même si tout n'est pas facile à comprendre, mais à force, les années passant, on comprendra plus en plus. Vous vous rendez compte, la grâce que Dieu nous a faite de nous donner ce livre. En plus, nous sommes dans un pays où la Bible a été traduite depuis plus de 500 ans. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Il y a des pays en Afrique, ils n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Vous ne trouvez pas que ça merveilleux? La parole de Dieu traduite en français. Heureux, ouais, heureux. Je ne sais pas si vous êtes heureux de lire la Bible ce soir. De lire que ceux qui sont sauvés seront épargnés de la colère. Ça vous fait pas... Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine? Et tout ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on voit le sommet de l'iceberg. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plein de choses dans des pays où tous les journalistes sont interdits, où il se passe des choses beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Heureux celui qui lit. Alors, comme le temps nous est compté, on va quand même passer au deuxième texte. Apocalypse 14, verset 13. Regardez. Apocalypse 14, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans un contexte, alors là, c'est dans un contexte sévère où les gens, pendant la colère, alors là, l'Église n'est plus sur la terre, mais il y a des gens qui vont être quand même sauvés. Ils vont être sauvés, mais pas par grâce. Ils vont être sauvés au prix de leur vie. Il va falloir qu'ils acceptent de mourir ou alors qu'ils acceptent la marque de la bête. Vous savez, cette fameuse puce RFDI, là, RFID, qui vont imposer, au bout de 3 ans et demi de la grande tribulation, cette puce sera obligatoirement imposée. Ceux qui l'acceptent iront en enfer. Et le Seigneur dit ceci à Jean, « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Bien sûr que c'est bien pour les gens qui vont mourir à cause de leur foi pendant la grande tribulation, mais c'est valable aussi pour nous. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui ou non? Quelle grâce de mourir dans le Seigneur. Parce que si vous ne mourrez pas sans Dieu, si vous mourrez sans Jésus-Christ, vous allez en enfer. Je le dis simplement, mais c'est la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, moi je vous conseille de prendre ce problème au sérieux et de ne pas commencer à dire oui, mais quand je vois l'état des églises, quand je vois l'état des pasteurs, ça ne me donne pas envie de me convertir. Vous allez vous présenter avec cette excuse devant Dieu? La Bible n'a pas dit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu » si les chrétiens sont gentils. La Bible a dit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il ne fallait pas oublier de toute ta force. Vous l'avez oublié, c'est vachement grave. Voilà, c'est grave, hein, John. Voilà, il n'est pas dit, si les gens sont gentils, si le pasteur il est aimable, si tu es dans une bonne église, quand vous passerez devant Dieu, nous aurons tous à rendre compte, est-ce que tu auras pris à cœur de donner ta vie à Jésus-Christ ? Heureux les hommes qui meurent dans le Seigneur. Quelle bénédiction de mourir en étant chrétien. Voilà, encore ce verset, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Si vous ne mourrez pas dans le Seigneur, vous ressusciterez, la Bible dit, pourquoi ? Pour le jugement dernier. C'est terrible cette affaire. Troisième texte, 16-15, 16 verset 15, ça parle des préparatifs de la guerre d'Armageddon, une guerre qui va venir au bout, c'est à la fin du millénium, elle n'est pas pour aujourd'hui celle-là. Mais en fait, ça ne fait rien. Il y a, dans le contexte des épreuves, des tribulations qui se passent aujourd'hui sur la terre, une vérité, Apocalypse 16 verset 15, « Voici je viens comme un voleur ». Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Ce soir, nous sommes venus dans la maison du Seigneur, peut-être certains pour découvrir l'Évangile, d'autres sont venus tout à l'heure pour prier, parce qu'il y avait un moment de prière avant, c'est très bien. Mais quand on prie, quand on lit la parole de Dieu, la Bible appelle ça veiller. Quand on le fait de tout son cœur, vous faites vos cultes personnels, vous ouvrez votre Bible, tiens, en ce moment, je lis tel livre, je vais méditer tel chapitre, et puis après, je vais avoir un moment de prière, parce que j'ai à cœur tel frère, tel pasteur, telle église, etc. Heureux celui qui veille. Les chrétiens qui veillent, Dieu les garde. Alléluia. Les vierges sages sont appelées sages par le Seigneur Jésus lui-même, pas parce qu'elles étaient peut-être plus intelligentes que les autres, mais parce qu'elles avaient eu le bon sens de prévoir qu'il faudrait davantage d'huile, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous reprendre. Je fais une étude en ce moment sur Salomon. Ça fait pitié, Salomon. Cet homme qui avait reçu la sagesse comme ce n'était pas possible, il est dit que dans le temps de sa vieillesse, les femmes inclinèrent son cœur. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Dans sa vieillesse, parce que des fois on dit oui, la tentation sexuelle, c'est que pour les jeunes, écoutez, moi quand je vois la Bible, je ne sais pas ça qui est écrit. Il n'a pas veillé. Béni soient les gens qui veillent. Vous aimez veiller ? Si vous aimez veiller, eh bien vous êtes heureux. Si vous aimez ouvrir votre Bible, moi je m'impose de lire ma parole, non pas par légalisme, mais je veux veiller, je veux prier, je veux comprendre. Moi l'Apocalypse, j'ai mis des années à comprendre. Il y a le livre de M. Segura, là, que je suis en train de lire. Je vous recommande de le lire, ce livre. Il est excellent. C'est merveilleux de comprendre les prophéties. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'y comprends rien, c'est trop compliqué, moi, je ne lis pas ça. Je préfère lire Victor Hugo, Les Misérables. » Mais ouais, tu vas le devenir. Mais je ne suis pas contre Victor Hugo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Victor Hugo, même si vous le lisez 13 fois, vous risquez d'en avoir vite marre. Tandis que l'Apocalypse, vous pourrez le lire toute votre vie, vous n'en aurez jamais marre. Je ne suis pas contre les littéraires, etc. Mais mes frères et sœurs, je crois que si Dieu nous a laissé sa parole, on peut être heureux de veiller. Que le nom du Seigneur soit béni. On est là pour ça. Appliquez-vous à veiller. Cinquième texte, alors c'est 19-9. Regardez. Regardez ce texte, s'il est beau. C'est la fin de la grande tribulation. Il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel. Là, on est dans le top niveau. Apocalypse 19, là, le programme, c'est le dernier chapitre, c'est chouette. Apocalypse 19, réjouissons-nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans un contexte de malheur, de malheur, de malheur. Regardez juste, on ne va pas voir les malheurs. Mais pour vous donner une idée, regardez Apocalypse 18, verset 10. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville !» Voyez. Verset 16, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville !» Verset 19, « Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, malheur, malheur. » Ça vous donne un petit peu l'ambiance de l'Apocalypse après l'enlèvement. Mais regardez pour ceux qui ont veillé. Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. »
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, il a bien fait, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Moi j'ai rajouté Alléluia dans ma Bible, parce que franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Heureux. Vous avez vu le contexte? Les gens qui seront sur la terre, c'est terrible. Sur la terre, il y aura des malheurs terribles, terribles, terribles. Et nous, dans le ciel, parce que nous aurons veillé, parce que nous aurons pris au sérieux ces choses, parce que nous aurons développé le respect des choses de Dieu, parce que nous aurons compris l'importance d'aimer la maison de Dieu, d'aimer la famille de Dieu, eh bien, on sera revêtu de fin lin. J'espère que vous aimez le blanc qui flash, parce que c'est comme ça que ça sera. Oui, c'est comme ça. Le fin lin éclatant, pur. Gloire à Dieu. Vous aimez le blanc ? Mais j'espère, parce que franchement, ça va flasher dans les cieux. Gloire à Dieu. Mais heureux, vous le croyez ça ou vous croyez que c'est de la poésie des littéraires français? Non, ça c'est la parole du Seigneur Jésus. Heureux, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Il n'est pas parlé de l'église. Il est parlé de l'épouse. Vous allez me dire, mais tu joues avec les mots? Non. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de croyants, mais ne sont dans l'épouse que ceux qui se préparent. L'épouse, elle se prépare. C'est ce qu'on fait lorsqu'on veille, c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est en train de partager un moment comme celui-ci, avec cœur, etc. L'église, elle se prépare. Alléluia. Et nous sommes là avec beaucoup de joie. C'est clair que moi, quand je pense aux gens dans le monde, je ne sais pas comment ils font, les pauvres. Quel bonheur. Oui. Si Dieu rappelle sans cesse, le sermon sur la montagne, il commence avec quel mot? Heureux. Heureux comment? C'est quoi la première condition? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce n'est pas des pauvres financiers. En esprit, c'est-à-dire spirituellement, je dépendrai tout le temps du Seigneur. Heureux les gens qui dépendent de Dieu. Heureux les gens qui croient ces choses. Vous les croyez, les prophéties? Qu'on va bientôt se retrouver au repas des noces. À qui vous pensez qui est parti dans le ciel, avec qui vous aimeriez vous retrouver? Ce matin, je disais à ma femme, on est allé marcher une heure, je disais à ma femme, qui c'est que tu languis le plus de revoir? Qui est parti? Monsieur de Dieu, qui c'est que vous languissez de revoir? Qui c'est la personne la plus... Pensez à quelqu'un qui est parti dans le ciel, ouais, moi il y en a plein. Moi je vois M. Christian, c'est un homme, ma mère Jean qui la revoit, ma soeur, tout ça. Moi je trouve que c'est bien. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Et croyez-moi, Dieu veut qu'on y soit tous pourtant. Je peux vous dire que les gens qui vont lire l'Apocalypse après l'enlèvement, ils vont certainement s'arrêter sur ces textes. À côté de quoi je suis passé? Ne perdons pas de temps, ne nous endormissons pas, ne nous éloignons pas. Soyons heureux, mes frères et sœurs, de marcher dans les voies du Seigneur. Apocalypse 22, 7. Quel programme, hein, mes frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 7. On va lire le verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Je pense que le Saint-Esprit a insisté, on sait très bien que la parole de Dieu est vraie. Mais on voit dans l'Apocalypse plusieurs fois, tellement ça mérite d'être souligné, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous savez, il y a des milliers de théologiens, des milliers de spécialistes dans les prophéties qui se sont moqués de l'Apocalypse et surtout de Jésus parce qu'ils ont dit, mais Jésus a dit qu'il revenait bientôt, mais en fait, ça fait 2000 ans. Et ils se moquent. Moi, je lis des commentaires de théologiens, ils se moquent de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas lu que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et que 1000 ans, c'est comme un jour. Mes frères et sœurs, heureux Et on revient à ce qu'on a vu au début. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Gardez-les ces choses. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand il y a un pasteur qui avait écrit dans un livre, il avait offert une Bible à un chrétien et il avait écrit, je ne sais plus qui c'est ce pasteur, c'est un homme connu, il a dit, ou ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Et j'avais trouvé que c'était bien dit. Parce que c'est vrai que si on garde la parole, ça nous éloigne du péché. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Imaginez, sérieusement, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est bien, mais c'est clair. Imaginez-vous, le Seigneur revient. Je suis là, je sais qu'il va y avoir la colère de Dieu, et je lis cette parole. Vous ne croyez pas que je vais me mordre les dents ? Dire quand même, je l'avais lu, je l'avais entendu. Vous savez, quand il est dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour ça que j'ai dit, je vais me mordre les dents. Parce que les gens vont dire, mais on le savait, on aurait pu garder. Et on termine avec ce fameux verset, Apocalypse 22, 14. On va lire le verset 12. Voyez, qui rappelle, et encore, et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait de tout votre cœur pour Dieu, cela vous sera rendu à la résurrection des justes. Vous vous rendez compte? Tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez fait, de tout votre cœur, le Seigneur vous le rendra. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, c'est la dernière fois dans la Bible on voit ce mot, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Dites-le s'il vous plaît. Amen. Quand on va y rentrer, parce que la ville, c'est pas la ville de Toulouse. La ville dont Jésus parle dans l'Apocalypse, c'est une belle ville. C'est une ville qui est très 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 grande. Je crois que Dieu est grand et ça ne m'étonne pas qu'il ait fait quelque chose de grand. Vous savez combien elle fait la ville ? 2200 kilomètres de large, 2200 kilomètres de haut. Vous n'aurez pas le vertige si vous habitez au dernier étage. Mais 2000, est-ce que vous avez une idée ? 2200 kilomètres de haut. Et tout est en or. Vous aimez l'or ? Comment ? Oui, l'offre des fondements, en diamant, en saphir, en émeraude, en fait les mondes de... Est-ce que... Comment ? Ah, les portes, c'est une seule perle. Je ne vous dis pas la taille des huîtres dans le ciel. Bon. Excusez-moi pour mes réflexions. Mais enfin, quand même, ça va être quelque chose de... Est-ce que vous réalisez les rues pavées d'or ? Ah oui, non, c'est... Il n'y aura pas beaucoup de tags, je pense. Ça sera merveilleux. Vous le croyez, tout ça ? Est-ce que vous comprenez pourquoi quand même dans l'Apocalypse, Dieu dans sa bonté, autant il va parler des malheurs, on aurait pu, j'ai hésité, mais j'ai dit non, nous on est concernés par le bonheur. Vous pouvez le calculer comme vous voulez, les chrétiens, nous sommes impliqués dans ce bonheur, à condition que tout ce que l'on lit, on le lise avec respect. C'est pour ça que vous comprenez qu'on a besoin de la foi, de la grâce, de la crainte de l'Éternel et du plaisir de nous retrouver dans sa maison pour le servir. C'est une bénédiction d'avoir une église. Enfin, moi je parle en tant que chrétien, je ne suis pas que pasteur. Moi, je dis que c'est une grâce d'avoir une église. Vraiment, parce que vous me voyez comme un pasteur, mais moi, quand je me regarde dans une glace, je ne me vois pas comme un pasteur, je me vois comme un chrétien. Et je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur et de lire ces merveilleux textes. Oui, bientôt, on va participer aux noces de l'agneau. Nous, on va être heureux, frères et sœurs, continuons à prier pour que des gens rentrent. Parce que je peux vous dire qu'ils ne vont pas rigoler. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, alors je termine quand même avec un verset qui me vient à cœur. C'est dans le chapitre 13, si je me trompe. 16, pardon. Il faut quand même que nous soyons honnêtes, parce qu'il y a cette foi, il y a cette grâce, il y a cette crainte, et elle est en partie développée par cette honnêteté avec la parole de Dieu. Apocalypse 16, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui y es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Voyez, nous, les jugements, ça nous bloque un peu. Mais tu es juste. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait, il est juste, il est saint, tout est préparé, les noces, tout est prêt. À nous de nous préparer. Et que cette soirée contribue à amplifier ce bonheur qui appartient qu'aux chrétiens. Heureux, oui, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si vous avez une concordance, faites-le dans vos cultes personnels. Regardez tous les textes, tous les versets qui contiennent le mot « heureux » et vous verrez que c'est toujours réservé aux croyants qui ont la crainte de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. La porte va se fermer. Il va y avoir un moment où vous ne pourrez plus rentrer. Là, pour rentrer, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de notre côté, en tous les cas. Il faut se repentir et demander pardon à Dieu pour ses péchés et s'engager à le suivre, prendre le baptême. Moi, je n'insiste jamais trop sur le baptême, mais quand même, c'est un engagement. Ça prouve qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Ça prouve qu'on a pris une décision. Si c'est un baptême superstitieux, ça ne sert à rien. Mais il peut représenter un véritable engagement. Oui, la porte, elle va bientôt se fermer. Et qu'est-ce qu'elle dit, la prophétie ? Que quand la porte sera fermée, qu'est-ce qui est écrit ? Mais qu'est-ce qu'il est dit ? C'est un truc de fou. Beaucoup. Non mais, ça fait peur quoi. Je ne sais pas s'il faut rire ou quoi. Quand la porte sera fermée, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Ça fait pitié vraiment. Les gens qui savent, combien de fils prodigues savent qu'ils devraient rentrer, ce que l'on voit aux informations. Moi je crois que ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, ce sont des indices de la colère de Dieu qui devraient montrer qu'il vaut mieux se trouver à l'intérieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Fermons les yeux et répondons à cette prédication. Je ne sais pas si vous êtes tous convertis, nés de nouveau, mais c'est à vous de choisir, c'est à vous. Repentez-vous si c'est nécessaire. Si vous êtes dans le péché, repentez-vous. Dès qu'un homme se repent, dès qu'un homme demande pardon, Dieu le pardonne. Et il se retrouve avec des vêtements neufs, des habits blancs, des chaussures, etc. Vous connaissez les paraboles. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Oui, nous le croyons, qu'ils sont heureux ceux qui lisent la prophétie. Qu'ils sont heureux ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent ta parole. Seigneur, dans ce monde qui s'auto-détruit, dans ce monde qui te rejette, dans ce monde de malheur, d'angoisse, où les nations ne savent plus quoi faire au bruit de la mer et des flots, nous te bénissons de nous avoir protégés, d'être à l'abri du calvaire, d'être couverts par ton sang précieux. Merci Jésus, merci de nous rappeler au travers de ces quelques textes dans l'Apocalypse qu'il y a des hommes qui sont heureux parce qu'ils ont choisi d'avoir la crainte de ton nom. Merci Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans cette église et dans cette ville. Merci Seigneur. Amen.